radio, and it won't let go. The rhythm on the radio.
Radio Libertaire 89.4 évidemment, et sur le net également. Est-ce que avant de se lancer dans les interminables lectures de journaux, de la revue de presse, qui est vraiment bon limité chez nous, hein, c'est le monde libertaire et le monde pas libertaire, est-ce que tu voudrais, si ça te dérange pas, Charles, nous évoquer ta vie, ton parcours radiophonique, mais en résumé?
C'est une longue histoire.
Oui, mais il faudrait que tu la résumes. Tu nous en as parlé tout à l'heure au restaurant, mais enfin, si ça t'intéresse de nous faire part de ton expérience, hein, après, oui. tu es libre, mais...
Mais forcé.
Un libre mais forcé.
Non, pas du tout. Non, tu peux dire non, je veux pas.
J'ai appris.
Mais,
oui.
Mais ouais, pas forcément en rentrant dans le tous détail, les détails. Mais donc tu as commencé à quelques milliers de kilomètres d'ici.
Oui, en fait, disons que j'ai appris à faire des reportages radio grâce au local de Radio France. Et c'est eux qui m'ont permis de savoir comment est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on va en reportage, comment on rédige un lancement, un pied. Et je leur dois beaucoup dans la transmission de la manière dont on a fait de la radio. Ça a été la première école. Et puis après, ça a été plus sur France Culture, où là, j'ai vraiment eu à ma disposition des équipes motivées, on avait du matériel, et là aussi j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je pense que je dois beaucoup au service public, et puis après aussi passer dans des radios privées, je crois qu'en fait tout est bon pour apprendre, surtout le spectre des radios. Voilà, je resterai assez discret sur mes aventures radiophoniques.
Ouais, mais tu avais commencé par nous parler de la Nouvelle-Calédonie, en fait.
Oui, j'ai eu le plaisir de passer plusieurs mois en Nouvelle-Calédonie, à la fois dans le service privé et sur le service public. Et là, j'ai gardé un souvenir, en fait, émouvant de cette Nouvelle-Calédonie, en dehors du travail. J'ai toujours dit que cette Nouvelle-Calédonie était une sorte de médicament. Lorsqu'on arrive de métropole et qu'on arrive à Nouméa, les choses sont plus apaisées. En tout cas, j'avais sentiment que les choses étaient plus pacifiques.
C'est quand à l'époque?
Il y a une dizaine d'années. Et j'ai vraiment eu une expérience humaine formidable. Voilà.
Ok. Voilà. Ouais, non, mais c'est bien. Sans rentrer plus dans les détails. Alors bon, allez, bon, ça a été court, mais merci en tout cas, Charles. Et là, on va commencer par plouf, plouf, le monde.
Lequel
des mondes? Alors, si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, vous vous signalez, Serge, hein, comme d'hab.
J'ai quand même un article dont j'ai envie de parler, mais c'est un peu compliqué depuis le 5 octobre. Il s'agit de notre ministre de l'Intérieur. Le titre de l'article, c'est « L'offensive de Retailleau contre les associations d'aide aux migrants ». Et en fait, c'est une réaction qu'il a eue après avec l'assassinat de Philippine, là, dont le meurtrier est un Marocain, actuellement en Suisse. Il avait été libéré d'un CRA. Un CRA, c'est un centre de rétention administrative. Parce que le Maroc n'avait pas délivré le laissez-passer consulaire nécessaire à son expulsion. Et donc, malformation administrative, disons. Le ministre avait dit à cette occasion, comme si ça avait vraiment un rapport, dans son esprit sans doute, « Je voudrais que l'État soit plus exigeant vis-à-vis des associations qui interviennent en CRA. De même, je considère que le conseil juridique et social aux personnes retenues dans les CRA relève de l'Office français de l'immigration, c'est-à-dire l'OFI, et non des associations qui sont jugées parties. » Alors, l'article du Monde rappelle que l'OFI est présent dans les CRA pour une mission d'accompagnement et de préparation au départ, ce qui se traduit par exemple par de l'aide au retrait d'espèces pour les achats de premières nécessités, la récupération de bagages, de dons de vêtements. Ils proposent une aide au départ volontaire. Voilà. Et les associations, elles interviennent dans le cadre d'un marché public que se partagent 5 structures actuellement, la CIMAT, France Terre d'Asile, Forum Réfugiés, Groupe SOS Solidarité et Solidarité Mayotte. Et le ministère vient justement le 27 septembre de renouveler son offre pour une valeur estimée à 26 millions d'euros sur 4 ans. La loi dispose en effet que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ. Alors, en ciblant ces associations, M. Retailleau sous-entend qu'elles ont une responsabilité dans la remise en liberté des personnes retenues en les aidant à former des recours contre les obligations de quitter le territoire qui les vise. Autrement dit, il oublie le fait que c'est le Maroc qui est merdouillé dans sa réaction et il met ça sur le compte des associations. L'association qui réagit en disant « Nous n'avons aucun pouvoir de décision, lequel est confié aux magistrats et n'intervenons que pour accompagner les personnes dans les démarches juridiques. » Ça, c'est ce que précise Mathilde Buffière, responsable du service rétention pour le groupe SOS Solidarité. L'intervention des associations dans les CRA fait l'objet de polémiques à intervalles réguliers. Dévolue à la seule CIMAD depuis 1984, elle a été morcelée par un décret de 2008 pris par Brice Hortefeux, alors ministre de l'Immigration. À l'époque, il y avait eu des recours contre l'attribution d'un des lots du marché collectif, Respect, considéré comme un faux-né du ministère. Et le Conseil d'État, dans une décision de 2009, avait rappelé que l'État ne peut attribuer le marché qu'à, je cite, « des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes », ce qui fait assez mal, disons, notamment sur le plan juridique et social, ce qui fait encore plus mal. Et donc, en conséquence, sauf à modifier la loi, on ne peut pas imaginer que l'OFI, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur, assure avec indépendance cette mission, des associations, donc mission qui consiste notamment à contester les décisions des préfets, puisque les préfets sont directement sous l'autorité de l'État. Donc c'est Serge Slama qui dit ça, professeur de droit public à l'université de Grenoble-Alpes, et il ajoute « C'est problématique d'un point de vue démocratique que le rôle de vigie des associations dans les lieux de privation de liberté soit remis en cause ». Voilà, je voulais juste rappeler ce petit truc. C'est un peu pénible.
C'est un peu important, c'est parce qu'on a tendance à... Tout le monde nous dit que ce sont les associations qui s'occupent des migrants, enfin des demandes d'asile, etc., qui influencent effectivement les décisions des...
Les associations ne s'occupent pas des demandeurs d'asile. Ils s'occupent des migrants, mais ils s'occupent
migrants,
pas
de... Voilà,
c'est ce l'administration qui s'occupe
je veux dire,
des...
Je veux dire effectivement que... C'est au final, c'est les juges qui décident. C'est pas les associations. Ça, c'est important de le rappeler.
Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un pouvoir un peu populiste qui cherche à racoler.
Voilà.
Alors qu'on a un premier ministre qui disait qu'il fallait éviter les controverses inutiles. Eh bien, Monsieur Retailleau, relisez votre Barnier. Voilà. Et puis ensuite, j'ai un autre truc, mais je sais pas si j'ai le temps.
Si, vas-y.
C'est un article du Monde du 1er, vendredi 1er, c'est aujourd'hui, et samedi 2 novembre 2024. Macron au Maroc, donc dans le Monde. Macron au Maroc, question sur une délégation. Pendant son voyage officiel, le président a été accompagné de nombreux invités. Alors là, je me suis
122, 130. Hein.
130, oui. Dont 120 dirigeants des plus grandes entreprises françaises.
Bon, jusqu'à pas là, 120.
Jusqu'à là, tout va bien. C'est ce que j'ai sous les yeux. Mais j'imaginais auparavant donc un roi de France qui décide de faire Paris, je sais pas, Paris-Bordeaux ou Paris pour aller en Espagne sans faire la guerre, disons en tas de paix, hein, et qui se balade donc avec son carrosse, avec la reine éventuellement ou ses courtisans, ses courtisanes, ses ministres, tout ça dans des carrosses. Ensuite, qu'est-ce qui suit ? Eh ben, il y a toutes les, vous savez. Il range les affaires dans des coffres à l'époque. Mmh. Il se balade de château vide en château vide, ou il campe, disons. Enfin, appelons pas ça comme ça. Donc, toute la noblesse qui suit, ça fait du monde quand même. Et ceci sur des routes qui sont pas nos autoroutes ni goudronnées non plus, disons, un peu caillouteux, voire à travers champs. Quand il pleut, vous voyez, et puis les vêtements qu'il faut transformer, qu'il faut transporter, et puis la bouffe qu'il faut prévoir, et puis le ravitaillement, la logistique.
C'est voilà. La logistique.
Et donc, ça fait des milliers de personnes, quoi. Oui. Et donc là, je trouve que Macron joue petit.
Ah, oui. Ah oui, par rapport à ça, oui.
130 personnes dans un seul avion. Ouais. Bon, je plaisante. L'article, le titre, il continue, il s'arrête pas là, il dit « Au profil parfois surprenant ». Alors là, je suis... Là, c'est une litote, disons, ils adorent les litotes. Alors, il commence l'article par par François-Marie Bannier. Mmh. Qui est invité, donc bien qu'il ait été condamné définitivement en 2016 pour abus de faiblesse sur la milliardaire héritière de l'Empire L'Oréal, donc ça en fait un. Il fait partie des 130 personnes choisies par l'Élysée aux côtés des traditionnels émissaires des entreprises du CAC 40 pour l'accompagner pendant ces 3 jours. Donc, moment historique sous le signe de la réconciliation, plus de...
De la reconnaissance du Sahara occidental.
Voilà, la signature de gros contrats, c'est pour ça qu'on reconnaît, je crois. Hein. C'est pas pour suivre les Américains seulement. C'est pas non plus pour faire de la peine au Fonds Polisario, c'est parce que c'est 10 milliards d'euros. Bon, la raison de la présence de Bannier à ce voyage d'État est un mystère. Le photographe n'a pas répondu à nos sollicitations, dit Le Monde. Contacter l'Élysée n'a pas donné suite non plus. Et la chaîne France 2 affirme que tous les invités avaient un lien avec le Maroc. Bon, contact, très bien. Et puis, à propos du nombre, de la taille de la délégation, je plaisantais au début, mais c'est parce que la Cour des comptes, le 29 juillet, s'inquiétait de la gestion des finances de l'Élysée et le caractère pléthorique de cette délégation.
Pléthorique.
Interroge, ouais. Donc. Pléthorique, oui. J'ai mes DH partout.
Non, mais ils répondent tous qu'ils ont payé leur voyage et leur hôtel.
Voilà. Figurer en bonne place de ce rapport de recommandations en matière de plafonnement de la taille des délégations officielles, ministres parlementaires, directeurs d'administration centrale et non officielles, autres personnalités issues du monde économique, culturel, etc., sur le modèle de ce qu'imposent les sommets internationaux, ainsi que l'élargissement du champ d'application des règles de refacturation des coûts au vu de certains profils d'invités. Bon, je vais passer sous silence ce qui concerne les coûts. Je vais m'intéresser aux invités. Et donc, les invités, l'ampleur de la délégation, d'abord, c'est proche de celle de 2023, pour montrer que Macron s'en fiche de la Cour des comptes, en fait, sans doute. Hein.
Mais, comme il s'en fiche de tout.
Bon, alors, qui est-ce qu'il y avait à part ça ? Il y a Ariel Dombal et son époux, le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui sont propriétaires d'Ariad à Marrakech. Mmh. Et encore l'humoriste Yassine Bellatar. Lui, il a été condamné en septembre 2023, dit Le Monde, pour menace de mort envers plusieurs personnes. Et il explique son invitation ainsi, je cite, « Je suis humoriste, je suis français et marocain, et je pense que j'ai fait quelques trucs dans ma carrière, fermez les guillemets. » Ensuite... Il y a d'autres personnes comme l'ancienne ministre Ben Guigui, qui est une proche du couple Macron, qu'elle conseille sur l'Afrique, entre parenthèses, la remarque est de moi, mais on voit le résultat. L'ancienne secrétaire d'État Nicole Gage figurait parmi les soutiens affichés du candidat Macron dès 2017. Il y a aussi Sarah El Haïry et Nadia Haï. Alors, j'en ai jamais entendu parler, mais ils ont été ministres sous ce même président de la République. C'est vrai que j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Contactés sur les raisons de leur présence et l'éventuelle refacturation qui leur aurait été demandée, elles n'ont pas répondu à nos sollicitations, à l'exception de Madame Haï. Cette dernière refuse de répondre aux questions sur sa présence dans la délégation au Maroc, mais elle précise qu'elle serait ravie, fermez les guillemets, de répondre à des questions concernant le fond. Ok. L'ex-député.
Comme si ça, l'un n'allait pas sans l'autre.
L'ex-député Mjid El Gherab, également présent, fait figure d'exception parmi les anciens élus invités. Il avait rejoint en 2017 le groupe En Marche à l'Assemblée nationale après son élection dans la circonscription des Français de l'étranger qui couvre notamment le Maroc. Il avait rapidement quitté après avoir frappé à coups de casque. Je crois que c'était pour des questions politiques, mais non, c'est parce qu'il a frappé à coups de casque moto un ancien responsable socialiste. Ok, des faits pour lesquels il a été condamné en appel en octobre 2023. Il explique sa présence par, je cite, ses nombreuses interventions en faveur de la marocanité du Sahara qui ont fait avancer la question. Fermez les guillemets. La présence de personnalités moins connues du grand public et proches de l'Élysée interroge également. Alors, il y a l'ancien banquier Christian Darnia qui a orchestré les levées de fonds auprès des grands dénoteurs pour le candidat Macron en 2017-2022. Ce monsieur est du voyage, sans mandat ni titre particulier. Le consultant, qui n'a pas répondu au Monde, avait déjà été convié à la table du président américain Joe Biden à Washington fin 2022. Les communicants officiels du palais avouent ignorer à quel titre il était invité, indiquait alors la lettre. Également présent, Pascal Ouzelot, membre du Conseil de surveillance du Monde, ancien lobbyiste de TF1, organisateur régulier de dîners mondains, auquel Emmanuel Macron était invité lorsqu'il visait l'Élysée. Monsieur Ouzelot précise avoir pris en charge l'intégralité de son séjour. Ok, très bien. Il explique développer depuis 10 ans un gros projet botanique et touristique proche de Marrakech, sans donner plus de détails, ne souhaitant pas communiquer dessus jusqu'à l'ouverture dans 18 mois. Ensuite, figure parmi la délégation l'ancien directeur des relations extérieures de Lagardère, M. Ramzi Kiroun, parti du groupe en 2022 avec 17 millions d'euros d'indemnité de fin de contrat. Le nom de cet ancien proche de Dominique Strauss-Kahn, qui ne nous a pas répondu, a refait surface en mai dans l'enquête pénale qui voue à Arnaud Lagardère d'avoir été mis en examen pour achat de vote, abus de biens sociaux. La justice s'interroge sur le rôle d'intermédiaire que M. Kiroun, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy et le patron du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi seraient susceptibles d'avoir joué auprès du Qatar, actionnaire du groupe Lagardère, afin qu'il soutienne son PDG. Autre invité, Frédéric Jousset, 137e fortune française depuis la vente de son entreprise de call center Webhelp, celui qui a rencontré Emmanuel Macron pour la dernière fois en 2016 lors d'une réunion d'appartement à Londres, explique sa présence parmi la délégation au titre de sa fondation Art Explora, dont le bateau-musée vient de faire escale au Maroc. L'État prend en charge sa présence dans la délégation. Ouvrez les guillemets, jamais aucun acteur culturel n'a été facturé d'une participation à un voyage présidentiel, précise-t-il. Claude Grisselli, lui, n'a pas eu à faire le voyage. « Je viendrai pas », déclare-t-il pour expliquer son invitation. Ce professeur de médecine de 88 ans avait été jugé pour trafic d'influence dans le procès des laboratoires Servier pour l'affaire du Mediator. Il a été relaxé par la justice, mais radié par l'ordre des médecins fin 2023. Voilà, Et pour terminer, lundi 28 octobre au soir, une autre personne était présente au cocktail organisé par la délégation à la résidence de France, qui dépend de l'ambassade, sans appartenir à celle-ci. Il s'agit de Malika Dati, sœur de la ministre de la Culture Rachida Dati, qui était également présente au Maroc et conseillère municipale de Nancy. Contactée, elle indique que son voyage est privé, totalement personnel, et que personne n'a payé pour elle. L'article est signé de Laura Motet, qui a dû bien s'amuser.
Il y a des gens pas vraiment toujours très fréquentables, apparemment, dans la délégation. En fait.
Et puis que des pauvres. Hein. C'est...
Ouais.
Ah, oui. C'est malheureux. Hein.
Il y a aussi Bernard Montiel.
Oui, Bernard présent. Montiel. Bizarre.
Alors lui, il
qu'est-ce
a dit...
Il en a oublié, donc.
Alors, parce qu'apparemment, il est né au Maroc, et c'est un grand copain de Brigitte.
Voilà.
Donc c'est une bonne raison.
Non mais qui n'invite Brigitte, je comprends, il n'y a pas de problème, je veux pas être...
C'est une
non mais
bonne
c'est chef de l'État, il participe au rayonnement de la France à l'étranger, voilà, bravo.
Que des bandits, que des bandits. Mm.
Bah, ils se disent... Enfin, c'est une forme de discrédit qu'il met sur le pays.
Ouais.
Il a une fonction quand même, c'est pas des copains qui l'invitent.
Mm-hmm. Tout à fait.
Il ne faut pas qu'il oublie sa fonction.
Oui.
À mon avis, enfin, je suis un peu vieux et casse-couille, mais là, il y a un petit problème.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont sur la paille, hein, tous. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'espère qu'ils voyagent tous dans le même avion.
Oui.
Bah oui, c'est l'avion présidentiel, il me semble.
Ah bah oui, bah dis-leur comme ça.
Alors, quand certains disent « j'ai payé mon voyage », ah ouais.
Non mais...
ils sont trop, c'est vrai.
C'est bien l'avion présidentiel.
Oh là là, les menteurs et tout, c'est...
Je ne sais pas, si on fouille, est-ce que c'est... Ils ont pris un vol Air France?
Mais non.
Ou est-ce qu'ils ont pris un vol Air Maroc? Non.
Ou alors, l'avion présidentiel fait payer ses invités, peut-être. C'est possible.
Ouais, c'est possible.
Ils ont payé l'avion présidentiel.
C'est possible.
Enfin, voilà. C'est sympa.
Oui, très.
Moi, je peux être invité, mais il faut dire que je n'ai pas de lien avec le Maroc. Là, ils ont tous un lien avec le Maroc.
Mmh.
Bon, voilà.
Oh, que se passe-t-il? Bah rien, le disque va démarrer. Petite erreur, c'est ce disque-ci.
Nagai kuru kami kaze ni
Radio Libertaire de Post Non-Radio Show. C'est un peu merdé au démarrage. C'était pas le bon disque prévu à ce moment-là, mais c'est pas grave. Un titre de 1973, plus ou moins paru en 1973, de Meiko Kaji, qui était également actrice, dans des films, une série de films qui s'appelait La Femme Scorpion, et qui mêlait le sous-genre film de femme en prison et film de vengeance. Amoureuse. Voilà. Et certains des titres de l'album ont été réutilisés dans les films, dans un film, je ne sais plus lequel, de Quentin Tarantino. Vous savez tout.
On va peut-être laisser la parole à Guy, éventuellement.
C'est sur
l'histoire. Il nous reste énormément de temps, en fait. C'est sur l'histoire. Voilà. Alors, l'anarchie embellit la vie. C'est lui le coin anarchiste, pacifiste, anti-militariste. Et c'est une première partie, hein, donc la semaine prochaine, peut-être, pour la deuxième partie, on verra.
Non, on n'est pas là la semaine prochaine.
Oui, c'est pour ça que je dis ça un peu avec humour, comme ça, mais ça viendra vite, hein, Henrik. T'inquiète pas. Oui. Alors, si on vous demandait de citer 10 noms de figures connues de l'anarchisme, celui qui a écrit l'article dit, bon, mettons, allez, 20 noms, on va vous demander 20 noms. C'est Franck Plazanet, du groupe Henri Laborie. Alors, Henri Laborie, a fait beaucoup d'émissions sur Radio Libertaire. Hein. Voilà. Et, noms, il a dit, il y a fort à parier que lui, Lecoin, n'y figurerait pas. De mon avis, je ne suis pas sûr, mais enfin, bon... Moi, en tout cas, je le citerai. Alors, pauvre Louis Lecoin, qui a dû séjourner 12 longues années en prison. Après Blanqui, alors Blanqui, vous savez, il a fait énormément de prison. Hein, 37 ans, il a fait, hein, de prison. Dans l'échelle de la royauté, de l'Empire ou de la République, Louis Lecoin dit, je suis sans le contexte celui qui, en France, resta le plus longtemps enfermé pour délit d'opinion. Alors, bien sûr, ce n'est pas le temps passé en prison qui assure la notoriété, à tout au moins le souvenir. Pour quelle raison l'anarchiste Louis Lecoin n'a-t-il pas autant marqué les mémoires des libertaires? Alors, son nom est aujourd'hui davantage associé au pacifisme qu'à l'anarchisme. On peut d'ailleurs trouver cette phrase de Louis Lecoin sur la couverture de la revue de l'Union pacifiste. Hein, toujours, ils ont toujours cette phrase qui a beaucoup de signification. Hein. S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non à la guerre, car on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Et peut-être est-ce là une des raisons pour son relatif oubli. Alors son nom resterait associé de façon assez restrictive au combat qu'il mena pour l'obtention du statut d'objecteur de conscience. Hein. Il a fait face à De Gaulle. Hein. Non que l'existence eh bien, de ce statut ne soit d'aucune importance ou ne l'ait été. Alors, mais il peut être difficile pour les anarchistes eh bien, d'accepter l'idée de demander à un État l'autorisation de s'exempter du droit d'armes, de l'uniforme et de la caserne. L'insoumission ou la désertion apparaissent comme des actes beaucoup plus rebelles. Et puis, il y a toujours cette connotation religieuse au fait de refuser d'intégrer un service militaire qui apprend à tuer d'autres êtres humains. Enfin, pour certains, eh bien, Lecoin était un réformiste. Et alors, la rubrique s'appelle « Je suis anarchiste » et il nous faut mettre les pendules à l'heure. Contrairement à ce que l'on ferait hein, pour les punitions scolaires d'autrefois, remettre Lecoin à l'honneur. Car Lecoin était, on ne peut plus, athée, anticlérical, et l'a toujours affirmé. Ses arguments pour l'objection de conscience n'ont jamais été de l'ordre du religieux. Si les premiers objecteurs de conscience concernés étaient chrétiens ou même témoins de Jéhovah, que ça plaise ou non, hein, ce sont eux qui, depuis quelques années, peuplent les prisons, après avoir répudié l'armée et la guerre. Alors les prisons, il connaît hein, Lecoin, et laisser des êtres humains croupir en prison du fait de leur opinion lui est insupportable, autant que la guerre. Il agit en cohérence avec sa conscience et ses idées anarchistes. Alors voilà ce qu'il disait, hein, c'est lui qui est cité. Alors, je pense fermement qu'un homme peut et doit se refuser à en assassiner d'autres. La guerre fomentée par le capitalisme mondial est le pire des forfaits. Je proteste contre lui en ne répondant pas à l'ordre de mobilisation, en n'obéissant pas aux injonctions de la soldatesque, en refusant de me laisser militariser. J'agis conformément à mon idéal anarchiste. Je suis logique avec mes idées et reste d'accord avec mon cœur, qui souffre au spectacle de ses laideurs, et avec sa conscience qui s'indigne que des individus accumulent tant de misère. Voilà la citation. Donc le point, c'est assurer un soutien très large pour créer un comité de secours aux objecteurs de conscience, qui, outre les noms, entre autres André Breton, Albert Camus, Giono, Charles-Auguste Bontemps, Bernard Buffet, qui comptait également ceux aussi de Lanza del Vasto, l'abbé Pierre ou le pasteur Rosaire. Alors, sans doute, avec des petits points de suspension, cette recherche d'efficacité a pu le faire passer pour un réformiste. Mais sur ce point-là, Le Coin n'a jamais été pris à défaut d'une modestie ou d'un courage exemplaire, dont la preuve peut se lire dans ses actions. Il s'est toujours affirmé anarchiste, coûte que coûte, du début jusqu'à la fin de sa vie. « Je suis anarchiste depuis 1905, et si la mort venait bientôt, j'assure que ce serait en anarchiste que je m'éteindrai. » Retraçons donc courtement sa vie d'anarchiste. Alors, Le Coin est bien issu d'une famille très pauvre, père journalier agricole, mère au foyer, une pauvreté proche de la misère, puisque l'enfant Le Coin est souvent obligé de mendier ou de voler pour vivre. Après un apprentissage foireux dans une ferme-école, Le Coin quitte sa famille et monte à Paris. Et puis, une fois qu'il a dépensé ses faibles économies, il cherche du travail. Il erre dans les rues, il trouve des petits boulots, il fréquente quelques meetings socialistes. Mais c'est un meeting, un meeting anarchiste avec Sébastien Faure, qui va le marquer à vie et décider de son engagement. Et puis le lendemain de ce meeting, il fait comme moi j'ai fait souvent dans des manifestations, une grève qui est organisée dans sa profession, et lui il participe à la grève, il se fait arrêter par la police, et dans ses poches, les tracts anarchistes qu'il avait pris lors de la réunion. Voilà. Donc il est alors envoyé à la santé, puisqu'il était anarchiste, la société devait se défendre. Nous sommes en 1906, et les lois scélérates, édictées en répression des attentats de la propagande par le fait, sont toujours d'actualité. Alors, on cite toujours lui Le Coin, il dit « Étais-je anarchiste ?» Il dit « En train de le devenir, oui. » Alors, puisqu'il a le sang chaud et qu'il est victime d'une injustice, il écrit sur les murs de sa cellule « Vive l'anarchie !» Boum, 4 jours supplémentaires de cachot. Mais ça, c'est que le début, Alors, quelques temps après, en 1910, il apprend qu'il est recherché par la gendarmerie. Depuis 2 mois, il aurait dû rejoindre la caserne pour faire son service militaire. Donc, il s'y rend malgré tout, après mûre réflexion. Alors, on le cite toujours, « Je m'étais juré que l'armée n'annihilerait pas entièrement mon individualité, qu'il y aurait des actes que je ne lui consentirais jamais. » Alors, l'occasion va lui être rapidement donnée de le vérifier. Son régiment doit briser une grève de cheminots. Alors il refuse, il dit « Je n'accepterai pas de partir contre les cheminots en grève, ma conscience me le défend ». Alors enfermement dans les locaux disciplinaires, conseil de guerre, 6 mois d'emprisonnement, l'article inquiet, qu'enfile le journal de l'Écho de Paris, voilà, ce journal donc, son article mérite d'être cité largement. Alors voici ce que dit le journal, le conseil de guerre de Bourges vient de condamner à 6 mois de prison le nommé Le Coin, soldat au 85e de ligne, qui lors de la grève des cheminots avait refusé d'obéir à l'ordre reçu. Alors, voilà, je suis syndicaliste, avait déclaré le soldat Le Coin. C'est vous dire que j'approuve le mouvement des cheminots. Je ne pouvais donc faire autre chose que ma conscience réprouve, car j'ai toujours considéré que le rôle de l'armée n'était pas de soutenir les privilèges capitalistes. Alors, il paraît que ce Le Coin était, par ailleurs, un très brave garçon, et que lorsqu'il parlait de sa conscience, c'était sincèrement et en toute bonne foi qu'il avait cru devoir en écouter la voix. Alors, dirais-je que c'est cela précisément qui me semble d'autant plus grave ? Ce que Le Coin appelle la voix de sa conscience, c'est la voix du peuple, et en réalité la voix de tous les apôtres de la grève générale et de l'antimilitarisme. Les mêmes professeurs de morale se chargent de compléter son éducation en lui enseignant que demain, si la guerre éclate, il ne doit pas non plus marcher contre les travailleurs des autres nations, ses frères. Voilà, alors dans le
pour le final, affirmer son individualité. Voilà. Terminons ce premier épisode en nous délectant du texte qu'en fit la CGT dans son journal La Voix du Peuple. Alors oui, le titre de la fin, là, c'est « Affirmer son individualité », c'est, je pense, hein, j'en suis sûr d'ailleurs, que c'est pour cela d'ailleurs qu'il est anarchiste. Voilà, et pas communiste ou autre... individu de ce genre, pour moi. Alors donc, sans tapage et avec simplicité, un militaire en activité ose affirmer par un acte son individualité consciente et logique. C'est une espèce rare à notre époque, mais c'est également le produit normal des éléments sains de la classe ouvrière. À nous donc de redoubler d'audace et de persévérance. Quant aux quelques préhistoriques militants qui ont coutume d'affirmer que l'antimilitarisme n'a rien à voir avec le syndicalisme, nous sommes désormais bien placés pour leur dire qu'ils sont ou bien de fiefs imbéciles s'obstinant à ne rien comprendre, ou bien d'astucieux coquins se réservant une porte de sortie qui leur permette de grignoter sur le tard, à l'office de l'hôtel gouvernemental, un fromage bien mérité. Alors on aimerait tant avoir des syndicalistes de cette trempe, à l'heure où la militarisation et l'autoritarisme gagnent les esprits, et on aurait besoin beaucoup de Lecoing. Alors les derniers mots sont laissés à Louis Lecoing, ce qu'il a écrit, hein, en 1962, dans son texte paru dans le journal Liberté, en disant, ben voilà, si je mourrais demain, alors moi, un vieux, aujourd'hui, je vous encourage, jeunes amis, à entrer dans la voie où de bonne humeur, je pénétrerai. Je ne prétends pas que toutes les félicités vous y attendent. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Vous apprécierez la valeur pratique des théories libertaires et vous entreverrez un idéal de vie que seule la philosophie anarchiste laisse espérer. Faites vite, vous perdez du temps, car croyez-en, mon expérience, l'anarchie embellit la vie, elle a embelli la mienne. Voilà, c'est dans les écrits, hein, de Louis Lecoing, il y a plusieurs livres sur lui. Et il termine en disant vive l'anarchie, voilà. Donc il y a une suite, hein. Il y aura une suite dans le... Alors ça, c'est Le Monde Libertaire d'octobre, hein. Voilà, on attend le numéro de novembre.
J'ai adoré tout à fait au début, parce qu'il dit, on ne construit pas une société sur des monceaux de cadavres.
Oui, ça c'est bien. Ça fait tif.
Hein. Nos comment supplémentaires.
Oui. Voilà. Pour la petite histoire, comme ça, lui, Lecoing... m'avait écrit, voilà, j'ai eu une relation d'écriture comme ça avec lui. Mmh. Il est décédé en 1971. Mmh. Voilà. Et puis moi j'étais abonné déjà avant au journal qui sortait, qu'il avait créé lui, et puis il a dit que dès que je disparais, mon journal disparaît aussi, et qui s'appelait Liberté. Mmh. Voilà.
Mmh. Weekend, late, exhausted after a long day. I've ate too much, I've drunk too much, I've spent too much. Great. Don't want to stop, just can't go on. One last drink, one last song. This tape collection gets bigger every minute. I find it very hard to fit the music to the mood, and there's nothing worse than to make the wrong choice. Except to sort right through and find nothing suitable. But then I find just the right thing to complement the mood I'm in. The room is filled with quiet expectancy. I fill my glass, I close my eyes, I wait. Day come crashing down like splintered glass. Tell me why the tape wobbles. 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 The batteries are running flat. No, it isn't that. The mains adapter's not connected. No, that's tried and tested. Tell me why the tape wobbles. Tell me why the tape wobbles. Tell me why the tape wobbles. Tell me why the tape wobbles.
The spool isn't wound tight. No, no, that's alright. The wheels don't wind on. Now look, I used to like this song. Tell me why the tape wobbles. 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 Driving me to distraction. I've got to turn it off.
As I walked into Central Park and I saw a gentleman come towards me on a horse. And it's not unusual to see somebody riding a horse in Central Park. In fact, it's quite usual. But this guy here was different. There was something about him. I mean, he was wearing old clothes or early 20th century. But there was something about him. Not the clothes, because that's quite been unusual out of spot with fashion. But this guy, he had sort of aura around him. I just stood there and watched him. I really couldn't, you know, break away from him. I had not expelled upon me. And after he rode off, I asked somebody who it was. I mean, does he come around here regularly? I thought his clothes were pretty strange anyway, so I commented to this passerby. And I asked about this person. They said, who? And I told them about the person who rode past on the horse. She said, I didn't see anyone. She said that she didn't see anybody go past on a horse. She's been there with her children for a while. Half an hour at least. You know, it's in a few seconds they go right past, across the path, past down the trees.
Radio Libertaire de Poste Non Radio Show. Vous êtes à l'antenne, il nous reste quand même un peu de temps.
Oui.
Charles.
Oui.
Oui, il se réveille.
Tu te réveilles.
Oui, c'est ça, je suis en décalage.
Oh, jet lagué.
Jet lagué, oui.
Alors,
Ça va?
Ah, il y a du mouvement.
On vous finit bientôt, là?
Non, pour l'instant, je peux y aller.
On est toujours à l'antenne.
Oui, oui.
Ouais. Ah, on est en l'antenne. Je voulais remercier l'article sur l'offensive de Retailleau contre les associations. C'est un article du Monde écrit par Julia Pascual. J'ai oublié de la citer, qu'elle veuille bien m'en excuser.
Tu nous parles des actions de Vincent Bolloré?
Oui. Oh. C'est un article des pages ID du Monde du vendredi 1er et samedi 2 novembre, tout frais toujours. C'est une analyse, disons, le groupe Bolloré détient 29,9% du conseil de surveillance de Vivendi, de Vivendi. Et donc le conseil de surveillance de Vivendi a approuvé lundi 28 octobre un projet de scission qui vise à scinder le groupe en 4 sociétés cotées dans 3 pays. Alors, Havas à Amsterdam, Canal Plus à Londres, Louis Hachette à Paris, ainsi que avec Louis Hachette, donc le bout restant de Vivendi, l'éditeur de jeux vidéo Gameloft et des participations dans Telecom Italia et Universal Music. Donc, l'objectif de M. Bolloré, c'est de révéler le vrai potentiel des actifs de Vivendi, où l'objectif de Vivendi, c'est de révéler... Bon. Et donc, celui qui affirme ça, c'est M. Yannick Bolloré, qui est le président du conseil de surveillance du groupe en instance d'éviscération du Le Monde et futur président du conseil de surveillance de Canal+ et PDG d'Havas NV. Comprenez, la somme des morceaux vaudra plus cher que l'actuel fourre-tout. Et pour cette raison, il est probable que les actionnaires appelés à voter le 9 décembre donneront leur feu vert à une chirurgie lourde non sans conséquence pour les intérêts français. Car une télévision, c'est un article d'Isabelle Chaperon du service économie, car une télévision, ce n'est pas une entreprise comme une autre, dit-elle. On peut s'interroger sur l'opportunité de laisser un acteur télévisuel, premier financeur de cinéma français, pesant dans le débat démocratique à travers sa chaîne CNews, se coter à la City. Je préférerais qu'il reste en France, a lâché Emmanuel Macron au détour d'un entretien au magazine américain Variety, visiblement impuissant, alors que rien ne peut se faire sans un accord des autorités fiscales. Il a oublié qu'il est chef de l'État. Là. Certes, à ce stade, Canal+, dont on célèbre en grande pompe les 40 ans, restera une société française payant ses impôts en France sous le contrôle de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, mais ce léger glissement hors des frontières pourrait faciliter par la suite d'autres mouvements plus radicaux. Havas, de son côté, verra non seulement ses actions négociées sur la bourse d'Amsterdam, mais sa holding de tête deviendra à cette occasion une société néerlandaise, presque 200 ans après la création de la célèbre agence par Charles-Louis Havas. Là aussi, ce déracinement pose question. Est-il opportun qu'une entreprise de communication et de conseil, ayant accès à l'intimité de fleurons français, prenne un passeport étranger? Dit autrement, l'exode boursier de ses succès entrepreneuriaux tricolores était-il indispensable? La suspicion est forte que l'opération vise moins à maximiser la valorisation des titres au profit de l'ensemble des actionnaires qu'à avantager le premier d'entre eux, à savoir Vincent Bolloré. Si l'Assemblée Générale valide le plan sanglier, entre guillemets, le nom de code de l'opération, chaque détenteur d'une action Vivendi va recevoir une action Canal+, une action Havas et une action Louis Hachette et conservera une action du groupe Vivendi restant. À l'issue de la séparation, le groupe Bolloré détiendra donc près de 30% de ses affaires et même 30,6% pour Canal+ et Havas par la magie de l'annulation des actions d'autocontrôle de Vivendi qui réduira le nombre de titres en circulation. L'article ajoute que si ces deux entreprises restaient cotées sur Euronext Paris, Vincent Bolloré devrait donc lancer une offre au public d'achat, une OPA, comme l'impose la réglementation boursière française quand le seuil de 30% est franchi. En déplaçant le terrain de jeu, M. Bolloré évite de lancer ce type d'opération coûteuse. Pour Havas, il choisit un marché qui ne le contraint pas à lancer l'OPA immédiate et lui offrira des droits de vote multiples et même la possibilité de créer une fondation afin de sanctuariser le capital. Ces protections devraient affecter le cours de bourse, mais elles offrent à l'homme d'affaires breton la flexibilité de réduire sa participation autour de table du publicitaire sans en perdre le contrôle. Car Havas constitue une mine précieuse d'informations pour un financier en quête de sa prochaine proie, fort d'un trésor de guerre de 10 milliards d'euros, plus 8 milliards de participation facile à céder. Inversement, beaucoup voient Vincent Bolloré monter au capital de Canal+, son actif préféré selon ses proches. Pour cela, la City est idéale. Il n'y a pas de PA obligatoire pour les sociétés non britanniques. Je cite « Depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la direction européenne sur les OPA ne s'applique plus sur la place de Londres », fermez les guillemets, souligne Pascal Curie, co-auteur du Verminen, la Bible de la finance. Quant à Louis Hachette, ultime subtilité, ses actions seront négociées sur Euronext Growth, où une OPA devient obligatoire à partir de 50% des détentions du capital. Officiellement, ce montage d'une rare complexité vise à donner plus de visibilité internationale à Canal+, à Canal+ à Londres, alors que le bassin de liquidité est deux fois inférieur à celui des bourses Euronext et à améliorer le traitement fiscal des actionnaires grâce au détour par Amsterdam. Mais à la fin, ça s'apparente plutôt à un bras d'honneur aux règles du jeu françaises. Alors quand l'optimisation fiscale va trop loin, le Trésor public sait siffler la fin de la récréation. Quid de l'arbitrage des réglementations boursières? Peut-il y avoir fraude? En tant qu'actionnaire minoritaire, le fonds activiste CIAM a saisi le 29 octobre l'autorité des marchés financiers pour qu'elle enjoigne au groupe Bolloré de déposer une OPA sur Vivendi. Un cri dans le silence à ce stade. La vérité, c'est que beaucoup d'investisseurs craignent le puissant milliardaire dont l'influence augmente à mesure qu'il transforme son empire des médias, de l'édition et de la communication en une machine de guerre idéologique. Article de Isabelle Chaperon, et dans le même journal d'ailleurs il y avait un article sur l'arrivée, ce qui se passe donc dans l'édition elle-même.
Mais pour qui se prend-il idéologique? Pour qui se prend-il? Pour Dieu peut-être? Non?
C'est quelqu'un qui a de l'argent.
C'est quelqu'un qui a de l'argent, mais qui est un peu...
peut-être trop.
Trop, et puis qui se donne une mission évangélique... c'est n'importe quoi.
C'est lui qui a le pouvoir, puisqu'il a l'argent.
Faut l'arrêter tout de suite.
Hein. Mais il faut l'arrêter, oui, tout à fait.
Oui.
Et pour ça, il faut une loi qui permette de l'arrêter.
On n'a pas arrêté ces news, alors que...
Bon. Oui, mais enfin, ce sont eux qui font les lois, hein, donc... C'est ça le problème.
C'est CNews qui va être arrêté?
Non, c'est C8.
C'est C8
et NRJ12.
Oui.
Et de toute manière.
Donc CNews, ça continuera. Il est propre.
Malheureusement, CNews, ça continuera. Voilà.
Mais moi, j'ai écouté BFM récemment. Le ton a un peu changé. Et d'ailleurs, il y a eu une cascade de démissions chez les gens qui y travaillaient depuis la prise de contrôle
par
Saada.
Saada, ouais.
Et il y a des gens qui s'en vont beaucoup, disons. Bon, très bien. Et le ton a changé, effectivement. Il faudrait des notes plus précises. J'ai pas envie d'en parler. Il faut écouter, essayer de se rappeler ce que c'était avant et maintenant.
Petit disque, petit
CD. Ouais.
Allez.
Only 17, but you're a queen. Someone
at the post-noon radio show Radio Libertaire 89.4. Puisque Guy est au téléphone pour le moment, on va s'écouter un autre morceau avant de se dire au revoir et de passer au morceau. Il a fini. Bon, eh bien, à ta place, j'allume les microches. J'allume les micros. Ok, donc une annonce premièrement. Pas d'émission au mois de novembre puisque je vais être hospitalisé. Je ne sais pas quand je reviens à l'antenne. Et donc, par extension, puisque c'est mon émission et mon équipe, l'équipe non plus ne sera pas là. Voilà, ça c'est dit. On s'est écouté The Jam, ABC, Bali O'Brien, blablabla, Meiko Kaji et là Raphaël à l'instant. On va s'écouter avant de se quitter un morceau de Jack Berocca, River Doig, 10h22, extrait d'un album qui s'appelle Fall and Crow, mais qui était sorti pour lequel j'avais eu un coup de cœur et qui était un très très bel album. Qui était paru en 2021 sur le label Natto, et le morceau conceptuel c'est un morceau de Nurse with Wound, extrait de l'album Shipwreck Radio Final Broadcast, et le titre le 13 juillet. Donc cher Serge, cher Guy, cher Yves, on se retrouve le plus tôt possible, j'espère.
Oui.
Je sais pas, peut-être en décembre, on verra. Je sais pas encore du tout comment vont se goupiller les choses. Charles, merci d'être revenu à l'antenne. Tu peux revenir quand tu veux, si tu as envie.
Et comme on dit à Nouméa, pour dire au revoir, à tata, bisous. Voilà.
Ouais, et bisous, tata, c'est ça.
Tata, non, c'est tata, c'est ouais. Un mot local. Voilà.
Ah, c'est un mot local. Ouais, ici aussi, c'est un mot local. Bisous tata, allez bisous à tous, bonne soirée en compagnie des amis de Sureshot Radio, Max, DJ5, DJ Settle et DJ qui déjà
New Max,
j'oublie toujours, le troisième des Raptou, c'est à minuit, donc salut, bye bye, on se dit
bonsoir à toutes et à tous.
Ah, c'est quoi ce tout et à tous ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore? Allez.
Bonsoir.
Et à la prochaine, on
c'est
se retrouve.
C'est un vieux type de langage.
On se retrouve un vendredi prochainement sur les ondes, l'antenne de Radio Libertaire. Vous étiez avec Henrik et ses camarades dans l'émission de Post Non Radio Show.
Allez, bisous à tout le monde.
Au revoir.
De poils urticants. Il pleut sur New York. Berlin est dévasté. Anyway, I'm going dans ta forêt, ma fille. Adulte? Never. Il faut que je descende. Et dans sa nuit, ma chaise bleue électrique sur un noir d'orage trône dans l'atelier Capharnaüm. J'ai soif. À l'ombre des poussières, il est 4 heures ce matin. Il faut que je boive. Que je boive et reboivent et goûtent encore cette huile avant qu'on ne la déménage. Je dors, je t'édors et redors. Bouton, pression, vision, pression, bouton. De cent en bordure, vous venez de quitter le secteur ouest des Mousses. Et dès à présent, longez la partie septentrionale de celle-ci, qui borde la clairière profonde. À perdre haleine, la télé gesticule. Et de plus en plus, cette place ressemble à une immense chambre froide équipée de façades, saturant le requiem de Cherubini, dirigé par les Stooges. Soyez réceptive, hein? Soyez. L'affaissement des nuages, je vais me mettre à genoux. La foule, tête baissée, à petits pas d'oiseaux malades, malades et gris. Aucune rumeur, mais un grand calme ébouriffant. À des jets de larmes, un grand calme. Le nez dans ton poil, les basses ronflantes, je bois et je lampe. Alors, à cet instant, mais seulement à cet instant, vous êtes bien sur la partie septentrionale des Mousses qui bordent la clairière profonde. La plus fine s'est mise en boucle. Le ciel lourd également, le requiem au bord de l'éclatement. Tu es inconvenante. Au courant et la nuit, un ongle imprécis et ma gorge à tes plis. Les oiseaux souffrent d'un indicible souffre et les radios parlotent, parlotent, parlotent. Janvier. Allez, ouais. Personne ne raconte rien.
Välkommen till Utva.
Welcome to Utva.
Yeah. Oh. sometimes science took back his astrology and alchemy and superstition in the occult. It's famous that Isaac Newton spent a lifetime searching for the philosopher's stone. But science never took all the way back. This new habit of throwing things off balance to see how fast they really went, this experimental method made sure that it couldn't work. Truth no longer depended on the prestige or the intelligence or even the integrity of any one person. That's why Galileo had the last laugh in his imprisonment. Well, why does any of this matter except the historians and the bargain or the half price? It matters because every time we make science more esoteric than it really is, we make modern life, which depends on science, more complicated than it needs to be. The glory of modern science is that while only a very few can understand its particular theories, anyone can understand its peculiar approach. It is simply the perpetual assertion of experience over authority and a debate over dogma. When we insist, as all the wise child psychologists do now, that every child is like a small child, we don't mean that she has esoteric knowledge of a broad range of subjects or public and her doors in the end of the dog. We mean that she is
S-Team Records in the building. Sure Shot Radio Show.
S-Team Records, let's go to Sure Shot Radio.
Sure Shots Radio Show.
Sure Shots Radio. Get it. Sure Shots Radio Show. Ha! Huh?
Sure Shots Radio Show. That's what it is. Bang.
DJ C. Kill.
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 DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ 5.
DJ Legal from the Snow Goons. You're listening to the Sure Shots Radio Show. Every Friday night at midnight, only the real hip hop. You know the S Team Records team, DJ 5, C-Cal, and Numax. You know how we do, man. Peace.
Yo, yo, this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Sure Shots Radio every first Friday at midnight. 10 hours of pure hip-hop live and direct with DJs, DJ 5, Numax, and C-Kel. S-Team Records, salute. What up, this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Snow Goons special brought to you by DJ 5, C-Kel, and Numax. Sure Shots Radio, real hip hop in your face. Boom.
This is your boy, man. Y'all know what it is. Mike Supreme, the Beast. Rough Riders, Four Seal Collective. Shottown, stand up. And you're not tuned in to Sure Shot Radio with DJ 5 and DJ C-Kel. Every first Friday at midnight. 10 hours of non-stop mixing with the best in hip-hop, reggae, and dancehall. S-Team Records, let's go.
Yo, what it do? It's your boy Big Sty, Mr. Never Quit, Never Stop. Chillin' with my boy DJ 5 and DJ C. Kel. You know what time it is. Sure Shot Radio Show. Every first Friday at midnight. 10 hours of non-stop hip-hop. Live mixes, hip-hop, reggae, dancehall, baby. S-Team Records in the building. We going in this year, boy. Holla.
Yo, what up? This Jack Deuce, the new moon. You know what it is. Rocking with my dog DJ C. Kel. Sure Shots Radio Show. Ha!
What's going on? Rough Riders in the building. It's the kid Drew James, and I'm kicking it with DJ C. Kel. Sure Shots Radio Show, baby. Let's get it popping.
Yes, the girl Shella the Blaze, and you listening to Sure Shots Radio Show.
Yeah, what up? This Jack Deuce. Kicking it with DJ 5. You know we grind for our paper. Let's get it cracking. Sure Shots Radio. Get it.
One to yo, it's DJ Legal from the Snow Goons. You're listening to the Sure Shots Radio Show. Every Friday night at midnight, only the real hip-hop. You know the S-Team Records team, DJ 5, C-Kel, and Numax. You know how we do, man. Peace.
Yo, 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 this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Sure Shots Radio every first Friday at midnight. 10 hours of pure hip-hop live and direct with DJs, DJ 5, Numax, and C-Kel. S-Team Records, salute. What up, this is Signature repping the Snow Goons. You're now checking out the Snow Goons special brought to you by DJ 5, C-Kel, and Numax. Sure Shots Radio, real hip-hop in your face. Boom.
This is your boy, man. Y'all know what it is. Mike Supreme, the Beast. Rough Riders, Four Seal Collective. Shot.